Voici d'abord les deux textes liturgiques de ce troisième dimanche de carême. L'épître est tiré de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui lui aussi nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous à Dieu comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur. Que la fornication et toute impureté ou l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous, comme il convient à des saints, non plus que ce qui est déshonnête, les propos insensés, les paroles bouffonnes, toutes choses qui sont malséantes, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare, ce qui est une digne idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bonté, justice et vérité. On se lève pour l'évangile, continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzébuth, prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le tenter, lui demandaient un signe qui vint du ciel. Mais lui, ayant vu leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, les maisons tomberont l'une sur l'autre. Si donc Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son règne subsistera-t-il? Car vous dites que c'est par Belzébuth que je chasse les démons. Or si c'est par Belzébuth que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pour cela qu'ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le devoir de Dieu que je chasse les démons, assurément le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsque l'homme fort armé garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Mais si un plus fort que lui survient, triomphe de lui, il emportera toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribuera ses dépouilles. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi dissipe. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et va par des lieux arides cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui sept esprits, autres esprits plus méchants que lui. Et entrant dans cette maison, ils y demeurent. Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Alors il advint, tandis qu'il disait ces choses, qu'une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui vous a porté les mamelles qui vous ont allaité ». Il répliqua « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Veuillez vous asseoir. Pour ceux qui suivent la messe sur Internet, je placerai, c'est je crois vendredi qu'il y a la grande fête de l'Annonciation, 25 mars, l'Incarnation, et je placerai la messe en vidéo sur Internet pour que ceux qui habitent loin et qui ne peuvent pas voir de messe puissent avoir quelque chose. Je vous rappelle ce que j'ai déjà dit hier, que j'ai une annulation, donc j'ai une place pour la retraite de juin. Donc j'ai une place pour chaque retraite, sauf la première, la retraite de Semaine Sainte qui est pleine. Aussi pour ceux qui viennent ici pendant la Semaine Sainte, qui viendront ici pendant la Semaine Sainte, donc j'ai publié un petit papier avec les horaires de Semaine Sainte qui sont sur le petit tableau de tabouret à l'entrée de la chapelle. Attention, donc tous les offices de la Semaine Sainte auront lieu au gîte, à Récombis, au gîte près de l'Edergue, là où je prêche la retraite, puisque j'ai une retraite pendant la Semaine Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui revenir un peu sur la fête d'un très grand saint, pour lequel j'ai une dévotion particulière. La fête de saint Thomas d'Aquin, parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler avant, comme j'aurais voulu le faire. Saint Thomas d'Aquin est un des plus grands saints de l'Église catholique. Sa fête est le 7 mars. Je dis souvent une chose, et plus j'avance dans mon sacerdoce, plus je me rends compte à quel point c'est vrai, qu'il y a trois signes par lesquels vous pouvez reconnaître un prêtre épris de modernisme. Avec le modernisme, a été condamné par le pape Saint Pie X en juillet puis septembre 1910, 1907, pardon. Juillet par le texte Lamentabili et septembre par la grande encyclique Pascendi. Il a repris plus tard tous ces mêmes enseignements dans la condamnation du Sion en 1910. Et il y a trois signes, à mon avis, qu'il faut bien surveiller. Quand vous ne connaissez pas un prêtre, vous devez vérifier qu'il est exempt de modernisme. Il y a trois signes. Le premier signe d'un moderniste, c'est qu'il ne peut pas supporter l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte par les pères de l'Église. Deuxième signe, la détestation de saint Thomas d'Aquin, sa somme théologique de saint Thomas. Troisième signe, la détestation des exercices de saint Ignace. Et je vous assure que ça marche à tous les coups. Si vous avez un prêtre qui présente ces trois signes, vous pouvez être sûr que c'est un moderniste, même s'il dit la messe traditionnelle. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur ce saint. On n'a pas idée de l'importance de ce saint. Je vais donner un exemple qui est assez connu. Après que saint Thomas ait écrit un des traités les plus complexes de la somme théologique de saint Thomas, traité De Trinitate, sur la Sainte Trinité, le bon Dieu lui est apparu. Et lui a dit, Thomas, tu as bien écrit de moi. Je ne connais pas beaucoup d'écrivains ecclésiastiques qui aient eu ce privilège. Le bon Dieu ne m'est jamais apparu après une conférence ou après un sermon me disant, Monsieur l'abbé Lafitte, vous avez bien écrit de moi. Bon, ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est arrivé à saint Thomas. Et à ma connaissance, c'est le seul saint dans l'Église catholique qui a un tel privilège. Parler d'une approbation. Tu as bien écrit de moi, que veux-tu pour ta récompense? Il a répondu, vous le savez, rien d'autre que vous, Seigneur. Et saint Thomas est tellement important qu'on considère que la date de sa mort, 1274, représente le plus haut degré de civilisation catholique jamais atteinte en France, en Europe. Et non seulement le plus haut degré de civilisation catholique, mais plus haut degré de civilisation de niveau intellectuel jamais atteint en France. Ça correspond à la date de sa mort. Vous savez que saint Thomas était particulièrement lié à la France, puisqu'il a fait ses études de théologie et de philosophie sous les ordres de Saint-Albert le Grand, qui était à l'époque directeur de l'université de la Sorbonne à Paris. Il a lui-même, saint Thomas, était lui-même professeur à cette Sorbonne. Alors, il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle on voit bien le plus haut sommet, c'est 1274, 13e siècle. Ce siècle qui est tellement détesté par les historiens modernes. Précisément parce que c'est le siècle d'or, on appelle ça le siècle d'or, c'est le siècle de la civilisation chrétienne, l'union étroite entre l'Église et l'État. Avec non seulement saint Thomas d'Aquin, mais aussi avec, c'est l'époque de Saint-Louis, roi de France. C'est l'époque où ces saints, une constellation de saints extraordinaires dans la politique. Et par exemple, à la même époque, saint Ferdinand, qui était roi d'Espagne, c'était le cousin de Saint-Louis. Il y avait Saint-Othon en Allemagne, il y avait Saint-Édouard en Angleterre, un peu avant ou un peu après. Et on voit très bien, après 1274, mort de Saint-Thomas d'Aquin, c'est le début de la dégringolade. Il faut étudier ça. D'abord la Renaissance, 14e siècle, puis l'arrivée de Luther, préparée par la Renaissance, 1517. Puis 1717, fondation de la franc-maçonnerie, et toutes les conséquences de la franc-maçonnerie, les textes de Desaguliers et la constitution d'Anderson, fondateur de la franc-maçonnerie, ça a donné immédiatement la révolution aux États-Unis, 1776, révolution en France, 1789, puis toutes les révolutions en Europe, ça a entraîné également la révolution en Russie, 1917, et puis ça a entraîné, hélas, l'abandon de tant d'hommes d'Église par Vatican II qui ont littéralement repris tous ces textes qui ont été condamnés par l'Église de multiples fois. Voilà pourquoi l'Église catholique va jusqu'à enseigner que la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin sont la philosophie et la théologie de l'Église. Vous vous rendez compte? L'importance de ce saint. Et il ne faut pas s'étonner si on voit très bien dans l'histoire de la philosophie comment les philosophes modernes Bon, essayer de cacher sous le boisseau la théologie et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Il a fallu tout le travail d'abord commencé par le pape Léon XIII. C'est le pape Léon XIII qui a commencé à remettre sur la sellette la théologie et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Puis le pape Saint Pie X a continué le travail de Léon XIII. Saint Pie X, dans sa grande encyclique, Pascendi, Nomine Gratiis, donc de septembre 1907, dans la dernière partie de son encyclique, parle des moyens de lutte contre le modernisme. Une encyclique qu'il faut lire, même si c'est un peu compliqué, elle n'a pas pris une ride. Et dans ses moyens de lutte, il marque retour à la philosophie, à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Donc quelqu'un qui a bien compris et étudié la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin est quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement. Je peux vous donner un autre exemple. C'est Cardinal Ratzinger qui l'avait donné cet exemple en parlant de lui-même. Cardinal Ratzinger, il était à l'époque préfet de la Congrégation de la foi, donc numéro 2 dans l'Église catholique, après le pape. Le Cardinal Ratzinger, qui viendra Benoît XVI, a dit et écrit: je n'ai jamais compris la théologie de saint Thomas d'Aquin. Ça explique bien des choses. Alors, essayons de faire une espèce de résumé de la raison pour laquelle le monde moderne déteste saint Thomas d'Aquin et la raison pour laquelle le catholique doit avoir un amour tout particulier pour ce très grand saint. Le monde moderne, avec toutes les idées du monde moderne, a une caractéristique. C'est un monde totalement déconnecté du réel. C'est un monde qui vit dans un monde complètement parallèle à celui du réel. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le monde a été créé par Dieu. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tous les hommes ont été créés avec une âme. La réalité, c'est que toutes les âmes sont des substances spirituelles douées d'intelligence et de volonté. Intelligence pour découvrir le vrai et volonté pour l'atteindre. La vérité, la réalité, c'est que comme nous sommes créatures de Dieu, il y a au-dessus un créateur qui a le droit de nous donner un mode d'emploi de notre intelligence et de notre volonté. Ce mode d'emploi, pour être sûr que tout le monde le connaisse, il est inscrit dans notre nature. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Transcription dans notre nature de la loi éternelle, la loi des 10 commandements de Dieu. Pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de tuer, de voler ou de mentir. C'est la loi naturelle. Et comme toutes ces choses sont absolument fondamentales, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'un jour je vais mourir et que je vais être jugé par Dieu. Et cette réalité fait que le monde moderne, qui est un monde, encore une fois, déconnecté du réel, c'est pour ça qu'on appelle le monde moderne un monde virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire virtuel? Virtuel, ça veut dire déconnecté du réel. Synonyme de la virtualité du monde moderne, on parle aussi d'un monde subjectif, d'un monde idéaliste. Tout ça sont des synonymes. Toutes les philosophies modernes, toutes, pratiquement toutes, sont des philosophies idéalistes. Idéaliste, ça veut dire quoi? Un idéal qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc la philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie réaliste. Contre la philosophie moderne, qui est une philosophie subjectiviste, une philosophie virtuelle, une philosophie idéaliste. Si saint Thomas d'Aquin est le père de la philosophie réaliste, Emmanuel Kant est le père de la philosophie idéaliste. Un Prussien, il a dû mourir en 1804. Et si j'ai une philosophie réaliste, qu'est-ce que ça veut dire, une philosophie réaliste? Philosophie réaliste, ça veut dire que je soumets mon intelligence au vrai. C'est ça la philosophie réaliste. Je soumets mon intelligence au vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque mon intelligence m'a été donnée par Dieu pour découvrir le vrai, évidemment, chaque intelligence doit se soumettre au vrai. Et si vous avez dans cette pièce, il y a quoi, une dizaine, dix intelligences, on les dit, c'est ça, dix intelligences, ces dix intelligences sont toutes obligées de se soumettre au même vrai. Ça, c'est la philosophie réaliste. Mais si vous voulez suivre la philosophie d'Emmanuel Kant et de tous ses petits amis, qui ont suivi après pour détruire l'intelligence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tomber dans la philosophie subjectiviste et qu'au lieu de me soumettre au vrai, je soumets le vrai à chaque intelligence. Et donc 10 personnes dans cette pièce, 10 intelligents dans cette pièce, chacun sa propre vérité. Donc il y a 10 vérités dans la pièce. S'il y a 10 vérités dans la pièce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vérités n'existent pas, évidemment. Vous voyez comme ces choses sont importantes? Parce que les conséquences sont énormes. Les conséquences de ce que je viens de vous dire, c'est que si j'accepte de me déconnecter du réel, je vais tomber dans une erreur monumentale qui va m'empêcher d'utiliser normalement mon intelligence et m'empêcher d'aller au ciel, qu'on appelle l'erreur de la liberté de conscience. Liberté de conscience, ça veut dire quoi? C'est moi qui fais ma vérité. C'est ça la liberté de conscience. Rappelez-vous les mensonges du démon à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça le libéralisme du monde moderne. Je décide ce qui est bien et mal. Dieu m'a donné une loi, et je la mets de côté parce que je refuse le réalisme. Je refuse d'avoir les deux pieds sur la terre, je vis dans un monde parallèle, un monde virtuel, et je décide par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis libre. Quand les gens me disent ça, ça arrive régulièrement, je dis, ah bon, vous êtes libre? Monsieur, est-ce que vous êtes libre de mourir ou de ne pas mourir? Ils me regardent avec des yeux ronds, ils disent, non, ben, évidemment. Vous n'êtes pas libre de mourir ou de ne pas mourir, parce que ça vous plaise ou non, que ça me plaise ou non, on va tous mourir. Est-ce que vous êtes libre d'être jugé, de ne pas être jugé par Dieu? Vous n'êtes pas libre. Parce que ça vous plaise ou non, vous allez être jugé par Dieu. Est-ce que je suis libre? Si, ça c'est très actuel, si j'étais créé par homme, comme homme par le bon Dieu, est-ce que je suis libre de changer ma nature et de prétendre que je suis une femme? Vous êtes libre de dire ces bêtises, mais vous ne pouvez pas changer votre nature. Quand quelqu'un me dit, heureusement on n'a pas de fidèles comme ça qui viennent chez nous, parce que ce serait un peu grave quand même, quelqu'un me dit, Monsieur l'abbé, je suis né comme homme, mais j'ai décidé de devenir une femme. Je dis, pauvre Dieu, vous êtes vraiment malade dans votre intelligence, vous sérieusement vous faire soigner. Il dit, mais écoutez, c'est tout simple. On va faire un examen de votre ADN. Et puis si de votre caryotype, de vos chromosomes, et si il suffit de regarder dans une seule de votre cellule, il y en a des milliards dans le corps humain, si vous avez un chromosome X et un chromosome Y, ben vous êtes un homme, c'est tout, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Si vous avez deux chromosomes X, vous êtes une femme. Vous voyez comme le démon travaille avec ces choses, c'est terrible. Donc il faut se rendre compte de tout ça, justement, pour se protéger et protéger nos enfants, pour ne pas tomber dans cette liberté de conscience. N'oubliez pas que la liberté de conscience, justement, que je viens de vous expliquer, qui est le fait que je peux décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal, et qui nous coupe complètement de la réalité des choses, est condamné par l'Église. C'est le grand texte du pape Pie IX, 1864, Quanta Cura, qui dit bien, la liberté de conscience est une liberté de perdition, une liberté une insanité. Pas moi qui le dis, c'est lui. Elle me dit, mais monsieur l'abbé, les choses ont changé. Mais Dieu n'a pas changé! Ah, mais les mentalités ont changé, mais Dieu ne change pas. Que vous soyez né au Moyen-Âge sous Saint-Louis, que vous soyez né en 2022 sous Macron, c'est la même chose. Vous serez dans les mêmes cas, tenu un jour de mourir, tenu un jour de présenter votre âme devant le bon Dieu, qui vous jugera selon sa loi à lui. Voyez un monsieur qui est passé par toutes ces transformations physiques abominables, qui va se présenter devant le bon Dieu le jour de sa mort. Et qui va dire au bon Dieu, écoutez, je vous préviens, je suis devenue une femme. Alors, il faudra peut-être me juger selon un angle de vue, parce que maintenant, je suis devenue une petite femme. Qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu? Elle va dire, excusez-moi, mais je crois que j'ai une bonne mémoire, j'ai une mémoire divine, je sais tout. Je ne vous ai pas créé comme femme, je vous ai créé comme homme. Donc, je vous juge comme tel. Vous voyez, les conséquences de cette philosophie sont énormes. Les conséquences, c'est la damnation ou le salut de millions d'âmes. Si j'utilise correctement mon intelligence, je peux sauver mon âme beaucoup plus facilement que si je ne sais pas utiliser mon intelligence. Voilà pourquoi le monde moderne déteste tellement saint Thomas d'Aquin. Alors, il faut revenir à cette philosophie. C'est pour cela que j'ai placé sur le site d'Anne Marie, un jour ça sera aussi sur YouTube, j'espère. C'est pour cela que j'ai placé sur le site d'Anne Marie, je conseille beaucoup à ceux qui ont un petit peu de temps, d'aller étudier justement la somme de saint Thomas. J'ai essayé de la mettre avec des mots tout simples par une série de conférences, je crois qu'il y a 160 ou 170 conférences d'une heure et demie chacune, c'est un peu un gros travail. J'essaie de synthétiser, de simplifier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin pour aider les gens à comprendre ce trésor extraordinaire qu'ils ont. Vous voyez, si je suis la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, en conséquence, je pourrais sauver mon âme plus facilement parce que j'aurais une véritable notion de ce qu'est ma liberté. La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux, de penser ce que je veux. Je viens de vous expliquer, vous n'êtes pas libre de penser que vous allez mourir ou pas mourir, parce que vous êtes obligé de reconnaître que vous allez mourir. Je vous donne une définition magnifique pour vous aider à comprendre cela. Elle n'est pas de moi, elle est du pape Léon XIII. Voilà ce que disait le pape Léon XIII. Pour définir la liberté, il dit bien, le pape Léon XIII qui parle, dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce que nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. Et Léon XIII continue en disant « La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. La liberté, c'est de pouvoir vivre dans un monde dans lequel je peux facilement sauver mon âme. » Ce qui fait le démon. Exactement l'inverse. Il essaye de transformer le monde en un endroit où il soit littéralement, pratiquement impossible de sauver son âme. Beaucoup de gens nous le disent d'ailleurs. Ils disent, monsieur l'abbé, mais moi j'habite dans une grande ville, je vais à l'université, je vais dans une grande école. Monsieur l'abbé, c'est pratiquement impossible que je reste en état de grâce. Je suis pratiquement sûr de me damner. C'est terrible de dire des choses pareilles. Parce que Dieu donne les grâces. Mais pour pouvoir utiliser ces grâces, il faut encore avoir la foi. Pour pouvoir utiliser ces grâces, n'oubliez pas que la grâce de la charité, qui est l'état de grâce, ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. Voilà pourquoi, en fait, en face de nous, les ennemis de l'Église font tout pour faire disparaître cette foi. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'avec Vatican II, 1962-1965, ils ont tout changé? Toutes les bases même de la foi. Parce qu'ils savent très bien que sans la foi, il n'y a pas de charité possible. Or, la charité est nécessaire au salut. Donc, si je détruis la foi, je détruis la possibilité que la charité puisse s'exercer sur cette âme. Et donc, les âmes vont se damner. Et c'est ce qui se passe. Regardez autour de vous. Là, on comprend mieux la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large, qui mènent à la perdition. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, on est libre. Alors, je voudrais reprendre avec vous rapidement, un texte magnifique qui explique très bien cela. À mon avis, c'est, à ma connaissance, un des textes, c'est une page, écrit par Monseigneur Lefebvre. C'est une page qui est tirée de son livre, que je vous conseille beaucoup, « Ils l'ont découronné », sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, au chapitre 4. Et Monseigneur Lefebvre explique qu'il y a trois sortes de liberté. Fais un petit peu de philosophie, je m'excuse, mais c'est un peu, peut-être un peu élevé comme serment, mais parfaitement capable de comprendre. D'abord, il y a la liberté psychologique. C'est le libre arbitre. Bon. Propre aux êtres pourvus d'intelligence et qui a la faculté de se déterminer vers tel ou tel bien indépendamment de toute nécessité intérieure, réflexe, instinct, etc. Donc, si j'ai une intelligence, j'ai ce libre arbitre. Est-ce qu'un oiseau a un libre arbitre? Un oiseau, à telle époque de l'année, que ça lui plaise ou non, il commence à construire son nid. Parce que son instinct lui indique. Est-ce qu'un oiseau peut dire, mon instinct me dit qu'il faut que je commence à construire mon nid aujourd'hui, mais j'ai décidé d'attendre. Il ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il a un instinct, il a une nécessité intérieure, il n'a pas de libre arbitre. Un chien peut-il dire, quand on lui présente sa gamelle, bon, c'est temps de carême en ce moment. Alors je mange pas. Ben, le chien se précipite sur la gamelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas donc, il a un instinct, mais il n'a aucune intelligence. Donc les animaux n'ont pas d'intelligence. Dans la création, les degrés de création de Dieu, a une intelligence, mais sur Dieu, l'intelligence suprême, les anges et les hommes, c'est tout. Les animaux n'ont pas d'intelligence. Donc le libre arbitre, dit Mgr Lefebvre, est la dignité radicale de la personne humaine qui est d'être, de se relever d'elle-même, donc d'être responsable de ce qu'elle fait. Un animal n'est pas responsable. Un chien vous mord parce qu'il a, c'est mal, il a mal dormi cette nuit, je ne sais pas quoi. Il vous mord les doigts, il n'est pas responsable. Alors, deuxième chose, après cette liberté psychologique ou libre arbitre que tous les hommes ont, il y a la liberté morale. Il y a l'usage du libre arbitre. Et là, il faut voir ce que disent les papes sur le sujet. Il faut comprendre, et Mgr Lefebvre l'explique très bien, un usage bon si les moyens choisis conduisent à l'obtention d'une fin bonne, usage mauvais s'ils ne conduisent pas. La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le pouvoir que j'ai de choisir les meilleurs moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée. Je ne suis pas libre de choisir de mourir ou de ne pas mourir, mais je suis libre des moyens que je peux utiliser pour me préparer à la mort. Ça oui. Et donc, le pape Léon XIII, ici cité de nouveau, la liberté morale, dit-il, la faculté de se mouvoir dans le bien. Le pouvoir que j'ai de me mouvoir dans le bien. Donc ça, c'est capital à expliquer à nos fidèles. La liberté morale n'est donc pas un absolu, elle est relative au bien, c'est-à-dire à la loi, d'abord la loi éternelle, qui est transcrite en nous, et pas ce qu'on appelle la loi naturelle. Et donc, je suis libre dans la mesure où je me meus dans le bien. Je suis libre dans la mesure où je peux suivre les prescriptions de la vie éternelle. La condition, encore le pape Léon XIII, la condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection. Il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et les détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. Et d'abord une loi, c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, lui était nécessaire. Donc ce qu'il faut comprendre, et saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment ça, peut-être ce qu'il a fait de plus important, explique très bien que la liberté, c'est une servitude et une imperfection, dans ce sens-là. La liberté de perdre Dieu est une imperfection. Je croyais que les anges sont libres au ciel. Est-ce que vous croyez qu'une fois que vous serez au ciel, j'espère que vous irez, moi aussi, nous serons libres de faire des bêtises, de pécher de nouveau, d'enfoncer le bon Dieu? J'espère bien que non. Parce qu'on est tellement bête qu'on est capable de recommencer les mêmes bêtises. Au ciel, vous n'êtes pas libre d'offenser le bon Dieu. Il n'y a plus de liberté dans ce sens-là. Parce qu'au ciel, tout est tourné vers Dieu. Et enfin, explique Mgr Lefebvre, la dernière liberté, donc la liberté psychologique, c'est le libre arbitre. La liberté morale concerne l'usage du libre arbitre, donc la faculté de se mouvoir dans le bien. Dernière liberté, liberté physique ou liberté d'action. Il y a liberté de contrainte qui nous empêche d'agir selon notre conscience. Eh bien, c'est précisément de cette liberté, dit Monseigneur, que les libéraux font un absolu. Ils pensent que cette liberté nous autorise à faire tout ce que nous voulons. Bien non. Et vous voyez, ceci, je fais une espèce de résumé, en quelque sorte, de toute la philosophie, toute la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et c'est capital à comprendre. Mettez une fausse philosophie. Mettez une bouillie de chien à la place du cerveau dans les gens avec une fausse philosophie et les gens seront incapables de sauver leur âme. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi vous croyez qu'en face de nous, dans les écoles, dans les universités modernes, ils font tout justement pour brouiller les cartes, pour détruire cette idée d'objectivité de la conscience et d'introduire une subjectivité de la conscience, le subjectivisme. Parce qu'ils savent qu'avec une âme subjectiviste, les gens ne pourront plus sauver leur âme. Pour en plus sauver leur âme. Alors, il ne faut pas se décourager. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que lorsque le démon quitte une âme, parce qu'il est mis dehors par une bonne confession, il revient avec sept petits copains. Et c'est le péché capital. Et s'il arrive à rentrer de nouveau, la situation devient pire pour nous. Alors, attention, mes bien chers amis, mes bien chers frères, à justement former notre intelligence. Une intelligence saine nous aide à rester en état de grâce. Une intelligence pourrie favorise évidemment les défauts d'ordre moral, le péché, l'introduction du péché dans l'âme. Qu'est-ce qu'ils veulent, démons? Perdre les âmes. Quel est le but de toutes les actions du démon dans le monde moderne? Perdre le maximum d'âmes possible. Quel est le but de l'Église catholique? Sauver les âmes. Sauver les âmes. Alors demandons, bien sûr, frère, demandons à la Très Sainte Vierge Marie cette grâce de savoir utiliser correctement notre intelligence. Et si je constate que mon intelligence a été pourrie par les idées modernes, ben, il s'agit de faire quelque chose. Il ne faut pas se dire, oh, ben, j'ai une intelligence pourrie, tant pis. Ben non. Quand on a une intelligence pourrie, on soigne son intelligence. On soigne son intelligence justement en essayant de revenir aux grandes règles de conduite morale que nous ont données les papes. Ça, je conseille beaucoup à tous ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps, mais qui veulent un peu approfondir ces choses qui sont tellement importantes. Lisez, relisez notre charge apostolique de Saint-Pédis, 1910. Lisez, relisez Pascendi de Saint-Pédis. Lisez, relisez Quanta Cura de Quas Primas, pardon. Non, Quanta Cura, c'est ça. Quanta Cura de Pie IX. Pour reformer votre intelligence. C'est pas facile de reformer son intelligence. Pour cela que Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire que plus on était allé loin dans les études universitaires, plus on était contaminé par le libéralisme moderne. Et il allait jusqu'à nous dire, je vous ai déjà souvent cité cette phrase qui m'a beaucoup frappé quand je suis rentré au séminaire, il nous disait, vous avez été contaminé par le libéralisme ambiant, par le lait de votre mère. Pour bien nous faire comprendre qu'on était tous contaminés par ces idées-là. Et donc la meilleure façon de se décontaminer de l'intelligence, c'est de tomber amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, tomber amoureux de l'Église, et demander à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à bien purifier notre âme, tout pendant le temps de l'Avent, le temps du carême, pardon, par une bonne confession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.